Salut tout le monde, moi c'est Éléonore.
Et moi c'est Valentine.
Et on fait partie du podcast Levé de rideau du FTUL, donc du Festival de théâtre de l'Université Laval.
Vous allez me dire, qu'est-ce que le podcast Levé de rideau? C'est un podcast qui cherche à présenter des acteurs des arts vivants au Québec, que cela soit par leur thématique, leur métier ou leurs aspirations. Nous voulons faire découvrir des aspects plus méconnus de ces formes d'art au Québec.
Cette semaine, nous allons vous présenter Jean-Denis Baudouin.
Comédien et dramaturge québécois, il vient nous parler de ses pièces dites horrifiques, de ce genre au théâtre et du côté psychologique derrière ses œuvres.
À l'interview!
Pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, j'ai fini au Conservatoire d'art dramatique en 2013 comme acteur. J'ai évolué pendant 7 ans à Québec à jouer au théâtre, puis aussi avec ma propre compagnie La Bête Noire. Et je suis sorti de l'école en 2013, puis en 2014, c'était la première production de ma compagnie, puis on avait monté un Jean-Marc Dalpé, on avait fait un Trick or Treat. Je sais pas si vous connaissez la pièce, en tout cas. Vous connaissez Dalpé? Ça vous dit quelque chose? Auteur franco-ontarien, super important de notre dramaturgie quand même. Et c'est ça, par la suite, on s'est mis à faire de la création, puis on a créé ma première pièce en 2014, qui, en fait, c'était l'automne suivant, qui était « Mes enfants n'ont pas peur du noir », qu'on a aussi repris à Montréal au théâtre d'aujourd'hui, en 2016. Entre-temps, en 2015, on a créé ma deuxième pièce qui s'appelait « Épicerie », qui était un thriller dans une épicerie. Et ensuite, 2018, on a fait « Dévorer » au Périscope, qui était mon troisième texte. Qui était plus, disons, dans le... Puis je sais qu'on va en discuter aujourd'hui, mais plus dans le théâtre horrifique, si on veut. Fait que c'est ça. Puis depuis 2020, je suis à Montréal. Je fais du théâtre ici. Puis aussi, j'évolue comme acteur. Ici, fais plein de trucs, là. Fait que voilà. Ça ressemble à ça.
Donc là, tu disais que tu avais écrit des pièces de théâtre, comme tu dis, plus horrifiques qu'horreur. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu plus tes pièces? Genre rapidement, qu'est-ce qu'il y a dans chacune?
Voilà, la première, « Mes enfants n'ont pas peur du noir », c'est plus un thriller psychologique, en fait, qui est inspiré du conte d'Ansel et Gretel. Donc, je suis parti d'une matière première qui était le conte... Ça m'intéressait beaucoup de plonger dans l'enfance, puis à quel point aussi les frères Grimm, ils ont fait des contes vraiment trash pour les enfants. Puis ça, on dirait que ça m'intéressait vraiment l'inconscience de l'enfance. Et ça parlait aussi de la relation que j'avais plus jeune avec mon frère, qui était quand même complexe, disons. Il n'y a personne dans ma vie qui m'a mené dans des zones de colère comme mon frère. Puis cette espèce de colère-là, cette zone du dernier retranchement, en fait, m'intéressait vraiment. Toute cette relation-là entre les deux frères était tricotée à l'intérieur d'un espace qui était restreint, c'est-à-dire que c'était une famille qui habitait dans le bois. En fait, les deux frères habitaient dans le bois avec leur mère. Le père était parti plus jeune, fait qu'il y avait comme un manque inhérent. C'était vraiment un jeu de torture quasiment entre les deux. Jusqu'au paroxysme, là, disons, qui était inspiré du conte aussi, fait qu'on était dans l'univers du conte. Puis ensuite, dans l'épicerie, je suis parti d'un exercice qui était beaucoup plus formel, c'est-à-dire une adresse, en fait, ça partait d'un monologue qui était une adresse à quelqu'un, puis finalement, ben, c'est devenu toute une espèce de thriller dans une épicerie où c'est un gars qui a un rendez-vous, qui arrête dans une épicerie pour s'acheter de la gomme, puis finalement qui en ressort jamais, en fait. Puis on découvrait tout ce qu'il y avait en dessous dans cette épicerie-là, qui était un commerce clandestin d'ossements humains, en fait. Fait que c'était tout un... C'était super éclaté comme truc, puis c'était un gros show, il y avait 11 interprètes. Dans le premier, dans Mes enfants, moi j'avais joué dans le spectacle. Puis dans l'épicerie, je l'avais mis en scène. Puis c'est ça, il y avait 11 acteurs. Fait que c'était vraiment une grosse patente. Ça a été super. Et ensuite, on était supposé faire Dévorer en 2017, si je ne me trompe pas. au Périscope, mais bon, le Périscope avait eu des gros problèmes dans la structure du théâtre, fait que tous les spectacles avaient été remis, puis il y avait plusieurs spectacles qui étaient nomades, fait que c'était bien, bien compliqué, fait que finalement, on l'a créé, j'ai dit 2018 tantôt, mais on l'a créé en 2019, à l'automne 2019, en fait. Et c'est ça, dévorer, j'avais envie d'aller dans l'univers de la télé-réalité, puis de voir, en fait, d'imaginer un monde où il y a une télé-réalité d'Halloween, puis où les gens peuvent gagner de l'argent en se filmant chez eux, en fait. Tout ça m'intéressait vraiment, le rapport au regard de l'autre aussi, puis à ce qu'on peut faire, tout ce qu'on est prêt à faire pour éventuellement gagner de la liberté. Dans ce cas-là, c'était avec de l'argent, mais... Fait qu'il y avait tout un jeu... entre, OK, là, on est en direct, faut faire un spectacle. Puis là, il y avait des pauses commerciales. Puis entre les pauses, il y avait comme tout plein de règlements de compte. Fait que c'était comme... C'était un exercice aussi qui était assez, disons, assez éclaté. Puis, tu sais, c'était aussi de créer, je pense, un univers distinct, là, dans Dévorer, qui était inspiré aussi de l'univers de Mes enfants n'ont pas peur du noir. Fait qu'il y avait comme... Il y avait un... Cette maison-là isolée, où les gens, en fait, cet univers-là isolé dans une société où les gens ont de plus en plus peur de sortir de chez eux. Fait que, tu sais, il y avait des présences à l'extérieur qui tranquillement, pas vite, rentraient dans les maisons. Puis c'est ça, fait qu'on avait fait on avait un immense décor. On avait vraiment. C'était une autre très grosse production de la compagnie. Puis c'est ça, tous les soirs, on détruisait quasiment entièrement le décor. Là, on avait des. Le décor était fait en feuilles de gyproc, puis c'est ça, durant le jeu, au climax, toute la maison tombait, fait que c'était assez épique. Puis on a vraiment travaillé aussi beaucoup la caméra live, aussi, dans ce spectacle-là, fait qu'il y avait... qui était mis en scène par Jocelyn Pelletier, puis la première production, Mes enfants, avait été mise en scène par Edith Patnaud. Puis dans Dévorer, je jouais aussi dans le spectacle. Fait que ça, c'est le résumé des trois productions qu'on a fait. Puis bon, il y a tout plein de projets sur lesquels je travaille en ce moment qui sont en écriture puis qui vont voir le jour éventuellement.
Mais c'est ça, comme tu dis, c'est pas vraiment du théâtre d'horreur que t'écris, plus horrifique, parce que ça reprend pas les marques du cinéma, je dirais, c'est tout ça?
Pour moi, l'écriture, c'est super. C'est vraiment un geste de l'instinct. J'aime ça être comme en contact avec mon inconscient aussi, puis ce qui parle en dedans de moi. Fait qu'on dirait que j'ai jamais choisi vraiment. Puis tu sais, même aujourd'hui, je dirais, j'ai de la misère à qualifier le théâtre que j'écris parce que j'ai l'impression que ça évolue beaucoup. Puis tu sais, je pense que c'est avec les critiques, puis c'est avec les gens à l'extérieur qui ont dit que je faisais de l'horreur. Tu sais, pour moi, Mes enfants n'ont pas peur du noir, c'était plus un thriller psychologique. Mais je comprends pourquoi il y a des trucs qui peuvent s'apparenter à l'horreur, puis c'est pour ça qu'avec le temps, j'ai voulu redéfinir un peu le terme pour dire théâtre horrifique, là, juste parce que je trouve qu'on a beaucoup de préjugés par rapport à l'horreur aussi, là. Fait que ça vient avec tout un bagage, ce mot-là, juste le mot horreur. Mais mon désir d'écrire, en fait, est vraiment né au conservatoire, parce que au Conservatoire d'art dramatique de Québec, ce qui est formidable, c'est qu'en troisième année, les finissants, on doit créer un spectacle à 12, en fait. Puis nous, on avait créé un spectacle qui était mis en scène et dirigé par Jacques Lessard, qui était à sa dernière année d'enseignement en 2013. Il prenait sa retraite. Fait que nous, on est la promotion Jacques Lessard. Jacques Lessard qui a été... en fait, à la base du théâtre repère, qui était les balbutiements de Robert Lepage, en fait. Donc, il y a toute une méthode qui est les cycles repères, qui est une méthode de création basée sur des ressources sensibles. Puis la ressource sensible du spectacle qu'on avait créé, c'était Ionesco, en fait. Fait qu'on partait de l'œuvre de Ionesco pour créer une nouvelle œuvre, en fait, inspirée du ton, disons, puis de l'univers d'Eugène Ionesco. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment un théâtre de l'absurde, en fait. Puis, ben, c'est ça, je me suis mis à écrire vraiment juste parce qu'on devait écrire, puis j'ai tellement eu un coup de foudre pour l'écriture, puis pour la liberté totale que ça peut procurer, puis Je me souviens même dans ce que je devais écrire, qui était comme le dernier, un des derniers morceaux de la pièce, qui était une scène de funérailles, en fait. C'était super absurde. Puis je me souviens que j'avais aussi instinctivement un désir de rythme, puis d'urgence, puis je sais pas, il y avait comme... C'est drôle, on dirait que je regarde avec un peu de perspective ce que j'écris aujourd'hui, puisque mes premiers instincts, puis c'est ça, j'ai l'impression que ça... C'est juste dans... C'est probablement mon imaginaire aussi, l'imaginaire de mon enfance, les films que j'ai regardés. C'est ça, fait que... Puis il y a tout plein de paradoxes aussi, tu sais, même avec les artistes qui m'ont influencé. David Lynch, par exemple, qui, disons, fait un cinéma très assez noir, super. Il y a très peu d'issues, je trouve, dans ses films. Alors que lui, dans la vie, c'est un homme qui a la méditation, c'est un des piliers de la méditation transcendantale, il est super impliqué en méditation, c'est un homme super pacifique, fait que tu sais, il y a comme tout plein de paradoxes, fait que je pense qu'il y a une partie de moi qui s'exprime via ça, d'aller dans ces zones-là de noirceur, puis de notre humanité, qui fait que je suis beaucoup plus... Ça me calme, disons vraiment. Puis pour moi, c'est une manière d'exprimer, je pense. Tu sais, c'est un conduit, là. Puis mes personnages, ils ont leur propre vie. Puis c'est pas, même si je comprends les obsessions, je comprends comme ces zones de noirceur-là. Puis je pense pas que je les porte, tu sais. Puis c'est ça qui est bien, qui est vraiment paradoxal, tu sais. Puis, fait qu'entre moi et l'écriture, il y a vraiment un conduit. Puis... Après ça, ça vit tout seul, puis ça a sa propre vie, puis ça, c'est vraiment magnifique, là. Puis après ça, tu sais, ce qui est super beau en théâtre, quand t'écris du théâtre, c'est que après ça, il y a des acteurs qui arrivent dans le processus, tu sais, puis ces acteurs-là, ils prennent les personnages, à un moment donné, dans le travail, ils leur appartiennent, tu sais, fait qu'il y a quelque chose de vraiment beau, tu sais, que les personnages que t'as en tête quand t'es tout seul chez vous, ben, ils prennent corps, puis à un moment donné, ben, ils ont leur propre vie, puis c'est parfait de même. T'sais. Puis, alors que ceux qui écrivent des romans, la solitude est beaucoup, beaucoup plus grande. T'sais. Parce que t'as pas ce contact-là avec tes personnages. Fait que de l'extérioriser, de rencontrer un public, tout ça, puis de juste faire un geste ensemble aussi, c'est ça qui est beau du théâtre. Là. C'est qu'on est ensemble, puis on a évolué ensemble aussi en tribu, fait qu'il y a quelque chose vraiment, je pense, dans notre nature qui fit vraiment avec le théâtre.
Ben là, j'y vais de mémoire avec les recherches que j'ai fait avant, là, mais même dans le théâtre grec, me semble, que toutes les scènes où il y avait des meurtres, choses comme ça, c'était fait pour que le public n'ait pas, le voit sur scène, tout ce qui peut être négatif, mais il ne le refasse pas dans la vraie vie. Genre, c'était un exemple à ne pas faire.
En fait, je pense que j'essaie de défendre les zones sombres de notre humanité, là. Tu sais, je pense que ça fait partie de nous, puis je pense que, tu sais, en philosophie, en psychologie, pardon, Carl Jung, il parle beaucoup de l'ombre, tu sais, de cette part-là de nous dont on a peur dans notre inconscient, dont on... la honte, en fait, la peur d'être rejeté par les autres. Il y a comme cette partie de là de nous qu'on essaie de refouler. Puis je pense que, tu sais, la fonction des rêves aussi, la fonction des cauchemars, c'est aussi de nous faire d'exorciser un peu nos démons d'une certaine manière. Tu sais, c'est d'éprouver, en fait, le réel d'une autre façon. Puis je pense que l'art peut aussi avoir cette fonction-là, tu sais. Fait que pour moi, d'aller dans ces zones-là, je pense que pour nous, c'est purificateur d'une certaine façon, tu sais. Puis, je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose de vraiment jouissif de jouer avec ces noirceurs-là, puis le public s'attend à quelque chose, puis finalement, d'aller vers la lumière ou décider d'aller ailleurs, ou juste l'idée de se poser la question, comme dans mon prochain texte qui s'appelle... Fous-toi, qui est aussi, si on veut, un espèce de suspense dramatique, en fait, où les trois unités sont vraiment resserrées, c'est-à-dire temps, lieu, action, c'est juste une heure de consultation entre un gars et sa psy. Puis tout le long, on se demande si le gars, c'est un psychopathe, en fait. Fait que toutes les actions, tout tourne autour de ça. Fait que j'aime ça, j'ai aussi joué avec ça, je pense. Fait que bref, cette partie-là inhérente de notre condition humaine, qu'on refoule beaucoup, puis qu'on rejette beaucoup. Puis il y a une mode en ce moment aussi où le théâtre se veut bien pensant, je pense. Ce qui est correct. Je pense que une culture en santé, c'est une culture qui a une diversité de genre, puis de genre théâtraux, en fait. Mais je pense que l'humanité n'est pas que bien pensante, puis je pense que c'est important aussi de pas nier cette partie-là de nous, de pas nier cette ombre-là, en fait. Fait que ma démarche s'ancre là-dedans, puis après ça, ça évolue, puis ça bouge beaucoup, mais dans 10 ans, probablement que je dirais pas la même chose, mais aujourd'hui, c'est ça, puis c'est où j'en suis.
Est-ce que c'est aussi pour ça, par rapport au fait que tu veux vraiment, d'une certaine façon, qu'on s'identifie, mais qu'on s'identifie pas vraiment, parce que dans les genres plutôt psychologiques, il y a quand même une certaine partie de nous qui veut s'identifier, en fait, et qui s'identifie à certains personnages. Est-ce que c'est pour ça que tu as voulu y aller aussi?
Le geste d'identification en fiction est vraiment important, puis c'est comme si mon écriture, parfois, je m'éloigne de ça, puis plus ça avance, plus j'ai envie de... T'sais, c'est comme je m'éloigne d'une espèce de réalisme plus télévisuel, disons, où on a des scènes de déjeuner, puis de... Mais tu sais, même dans mes enfants, il y a des scènes de maison, puis même chose dans Dévoré, puis c'est comme si... Je pense que dans Dévoré, j'ai voulu aussi, il y avait aussi dans l'idée de vouloir m'éloigner d'une écriture plus populaire pour aller dans des zones plus inconnues, puis je pense que c'était le jeune artiste en moi, puis je pense que c'est drôle aujourd'hui, plus ça avance, plus j'ai envie de trouver les moyens pour que ce geste d'identification-là soit de plus en plus puissant dans un univers qui est unique puis qui a ses propres lois, tu sais. Parce que je pense que c'est ça qui est vraiment fort de la fiction, là. C'est quand on se reconnaît dans les personnages puis quand on se met dans la peau des personnages, en fait. Puis ce geste-là, comme je parlais tantôt, de purification, comme dans les rêves d'éprouver quelque chose, c'est-à-dire que dans ton inconscient, t'as quelque chose qui est pas résolu, t'as quelque chose qui te fait peur, puis le rêve vient comme juste te faire passer à travers une situation qui pourrait arriver, en fait. Puis je pense que le geste d'identification en fiction est vraiment fort aussi, puis il y a aussi cette fonction-là, en fait. Fait que plus ça avance, plus je réfléchis à ça, puis je réfléchis à comment la fiction peut aussi nous aider à passer à travers certaines affaires, puis... Ouais. Fait que pour moi, c'est super important. Vraiment, tu sais. Puis c'est pour ça que, tu sais, je parle beaucoup de cette espèce de connexion avec l'espèce de flux de l'inconscient. Pour moi, c'est vraiment important parce que j'ai l'impression que c'est de là que l'art prend ses racines, en fait. Tu sais, c'est dans notre inconscient collectif. Puis, fait que, tu sais, c'est... Écrire, c'est vraiment un geste qui peut être souffrant et difficile au quotidien. Ça prend beaucoup, beaucoup de... Faut être motivé parce que c'est dur écrire, c'est vraiment dur, tu sais. Pour mon premier texte, pour mes enfants, j'ai peut-être fait 30 versions du texte, tu sais. Puis plus ça avance, plus je pense que j'ai un meilleur regard par rapport à ce que j'écris, donc j'arrive à couper plus tôt, puis à faire moins de versions. Mais comme là, mon nouveau texte, je suis déjà à la 6e version en ce moment. Puis je pense que j'arrive tranquillement pas vite à un résultat qui me satisfait, mais je pense que ça prend du temps, fait que c'est difficile d'écrire au quotidien, fait que je pense que la motivation doit venir de la bonne place, puis plus tu retravailles, c'est facile de dénaturer le geste premier, tu sais, qui part de ton inconscient, qui parle de ton impulsion première, de ce pourquoi t'écris, tu sais. Puis au quotidien, j'essaie de me rappeler ça, puis j'essaie de revenir à ça, parce que c'est dur, là, tu sais, puis surtout, tu sais, c'est comme, tu sais, il y a certains auteurs, surtout en littérature, qui disent, par exemple, qu'ils écrivent 2000 mots par jour, Puis moi, j'ai l'impression que j'écris moins 200 mots par jour parce que je pars d'un brouillon qui est chaotique. Puis à tous les jours, comme un sculpteur, tu sais, j'en enlève, je peaufine. Tu sais, fait que c'est comme surtout un objet théâtral. Tu sais, dès que tu as une première version complète du truc, tu es tout le temps en train de réécrire. En tout cas, moi, c'est vraiment ça ma démarche. Mais tu sais, tous les jours, tu repasses à travers les mêmes morceaux, à travers les mêmes trucs. Puis approfondie, puis finalement, la première version puis la dernière version, ils sont très, très différentes, mais l'histoire, c'est la même, tu sais, puis l'histoire que tu veux raconter, fait que, tu sais, c'est un geste qui peut être, comme je disais, vraiment souffrant, mais je pense que, pour moi, la manière de du moins d'être en paix avec cette souffrance-là, c'est toujours de revenir à ce qui émerge de moi, puis à d'être en contact avec mes rêves aussi, tu sais, j'ai comme, le matin, j'ai mon petit journal des rêves, là, je note mes rêves le matin, parce que, je sais pas, il y a comme, pour moi, quelque chose de vraiment important là-dedans, tu sais, la rationalité est importante jusqu'à un certain point, je pense, dans l'écriture. Fait que, c'est pour ça que j'ai de la misère à qualifier aussi, puis dire que je fais de l'horreur, ou dire que je fais des thrillers, parce que, Il y a quelque chose de beaucoup plus chaotique dans l'inconscient qui, moi, m'intéresse beaucoup plus que les... C'est, ça peut être contraignant, un genre, je trouve. T'sais.
Quand on en avait parlé, je sais que tes pièces avaient déjà été beaucoup appréciées du public, mais est-ce que le fait d'une pièce qui monte une tension plutôt que les pièces plus... Je vais dire plus de répertoire, mettons qu'on connaît là, les grands classiques, ce qui est plus... Les pièces, mettons que t'écris, il y a plus de tension dramatique où vraiment le public est sur le bout de ses orteils, mettons, hein, sur son siège. Est-ce que c'est quelque chose que le public apprécie plus?
En fait, je pense que la tension, pour moi, quand il n'y a pas de tension, pour moi, c'est plus intéressant. Du moins dans mon écriture à moi, là. Faut qu'il y ait une tension toujours, puis il faut qu'on se pose des questions, puis... Puis que s'il y a une réponse qui est donnée, qu'il y a une autre question qui émerge de ça. Puis ça, évidemment, c'est une des règles du thriller en général. C'est que faut toujours que tu te poses des questions, puis faut toujours que tu veuilles avoir des réponses, tu sais. Puis cette tension-là, je pense qu'elle vient aussi de l'inconscient des personnages, tu sais, puis de leur relation entre eux. Fait que oui, tu sais, la tension dramatique, pour moi, c'est super important. Puis c'est pour ça que je dis que tu sais, souvent... En télé, il y a un côté plus léger, il y a un côté plus familier, plus naturaliste, où la tension, souvent, n'est pas toujours là. T'sais. Puis c'est dur d'écrire une heure et demie spectacle où la tension est constante, parce que t'sais, un film, tu peux, si t'es chez vous, tu peux l'arrêter. Mais au théâtre, le public est pogné là, le public est emprisonné dans la salle d'une certaine manière. Tu peux sortir, évidemment, là. Mais le geste de sortir demande un effort. Fait que, souvent, on toffe le spectacle jusqu'à la fin, même si on n'aime pas ça. T'sais. Fait que, comme auteur de théâtre, il y a cette conscience-là aussi que le public est... C'est une expérience vraiment vivante, puis c'est une expérience qui peut être super demandante quand le spectacle n'est pas bon. C'est vraiment difficile. Puis quand c'est pas bon au théâtre, c'est vraiment pas bon. Alors que quand un film n'est pas bon, c'est moins pire un peu parce que... comme la relation que tu as avec le film est moins impliquante, disons. Mais quand c'est bon au théâtre, c'est bon, c'est transcendant. T'sais. Les acteurs sont devant toi, puis il y a quelque chose qui se passe. T'sais. Puis je pense que cette tension-là dramatique, tu peux vraiment aller la chercher au théâtre, quasiment encore plus qu'au cinéma. T'sais. Parce qu'il y a un réel danger, parce qu'il y a quelque chose qui se passe devant toi, parce que tu as l'impression que ça se passe pour la première fois. T'sais. Fait qu'écrire du théâtre, c'est aussi ça, puis je pense que c'est important, cette tension-là entre le public puis le spectacle, tu sais. Puis c'est justement, c'est Jean-Marc Dalpé qui disait ça, là. C'est comme si le spectateur, son mouvement, faut juste qu'au début, il soit assis sur son dossier, puis que tranquillement, il s'avance vers le bout de son siège, puis là, oups, c'est terminé, puis il quitte la salle. C'est jamais ça, là. C'est jamais ça qui se passe. Mais c'est ça qu'on cherche, tu sais, puis ça arrive, tu sais. Cette symbiose-là entre le spectacle et le public.
Puis, mettons, en mise en scène, c'est travailler de quelle manière pour amener l'attention puis le manque de sécurité pour le public?
T'sais, je pense aussi que les règles du jeu de la télé-réalité me permettaient aussi, moi-même, d'établir des règles très claires puis de créer de l'urgence, en fait. T'sais, de faire comme, OK, là, on a 3 minutes pour faire de quoi d'intéressant. Faut faire de quoi d'intéressant. Puis, tu sais, en fait, la règle du jeu, c'était que tu as plusieurs maisons. En fait, tu t'inscris au concours. Faut que tu aies une caméra chez vous. Puis, tu as des blocs, en fait. Puis, à chaque bloc, tu peux être éliminé. Fait que si tu continues dans, entre guillemets, l'aventure, là, parce que c'est vraiment le terme qu'on utilise en télé-réalité, là, pour en avoir écouté pas mal. Puis, fait qu'à chaque bloc, t'as le risque d'être éliminé. Fait qu'il y avait comme, je pense que cette tension-là était agrandissée juste de par la structure du jeu. Fait que plus ça avançait, plus il y avait des enjeux qui étaient de plus en plus grands, tu sais. Fait que, puis cette, t'sais, ce qu'on vivait sur scène, c'était la maison qui devenait de plus la maison la plus populaire, en fait. Fait que, parce qu'il y avait des, entre guillemets, monstres qui avaient pénétré cette maison-là. Puis à la fin, le travail de Jocelyn Pelletier aussi, c'était vraiment intéressant parce que il y avait aussi à un moment donné, les dernières maisons, les maisons finalistes, il y a une équipe de tournage qui débarque dans la maison. Fait que tout d'un coup, le jeu devient vraiment mieux filmé. Fait que ça devenait vraiment du cinéma, tu sais, fait qu'il y avait quelque chose. Fait que oui, en effet, l'attention venait vraiment de la structure du jeu, assurément. Tu sais, puis je pense qu'aussi avec le public, c'était le fun parce qu'il y avait vraiment un danger, tu sais, puis le danger, il était réel, puis il était devant eux, tu sais, fait que même le public n'était pas certain d'être en sécurité, puis ça, c'était vraiment intéressant, tu sais. Puis je pense que l'horreur au théâtre naît de l'expérience, tu sais. Si t'as peur, t'as un peu peur aussi en ce moment de ce qui se passe dans le building, tu sais. Fait que check sont où les sorties de secours, mettons, là, tu sais. Fait que, et comme pour nous autres, c'était intéressant de travailler ça, vraiment. Je pense que, ben, la musique, tu sais, a vraiment un rôle important, tu sais, dans toutes les œuvres de fiction. Je trouve que, tu sais, souvent une bonne trame sonore peut amener des sensations importantes. Puis, tu sais, on avait vraiment travaillé la musique dans Épicerie, l'importance de la musique. Puis évidemment, là, ça part d'une dramaturgie solide, là. Je pense pas que la musique est suffisante, mais on avait vraiment travaillé ça, on avait travaillé le rythme, on avait travaillé aussi comment la scénographie pouvait se bouger, pouvait être... Fait que, tu sais, pour moi, c'était une question de rythme, puis... d'accepter les silences aussi, de travailler. Tu sais, il y a des metteurs en scène qui détestent les silences au théâtre. Je pense à... Parce que je l'adore, j'ai travaillé avec Marie-Hélène Gendreau, on avait fait un tremblé, Le vrai monde au Trident. Puis je me souviens, Marie, elle me disait à quel point elle aimait pas les silences. Puis je pense qu'il y a quelque chose d'inconfortable dans un silence, en fait. Mais moi, j'aime beaucoup les silences. Vraiment beaucoup. Puis je me souviens, on avait vraiment travaillé cette tension-là entre les répliques. Puis même dans mon écriture, puis là, de moins en moins quand même, mais j'ai tendance à mettre beaucoup de temps puis beaucoup de silence. Je trouve ça important, tu sais. Mais parce qu'il y en a... Tu sais, même si, tu sais, entre nous, en ce moment, si je prenais un temps de 4 secondes, ça serait bizarre. Tu sais, c'est comme on a de la misère à tolérer ça. Puis, fait que tout de suite, l'attention du public, quand il y a un silence, puis il y a quelque chose qui se passe, j'ai l'impression, puis quand c'est bien fait. Puis c'est vraiment le fun au théâtre quand tu sens à un moment donné, dans un silence, que tout s'arrête, pour de vrai, tu sais. Puis que t'as l'attention de tout le monde dans la salle, puis je pense qu'il y a... Dans l'épicerie, on avait travaillé ça, puis ça avait été particulièrement efficace, je pense. Puis l'importance aussi de l'humour, là, tu sais, dans l'épicerie, on jouait sur une fine ligne aussi, là, fait que c'était aussi très drôle, fait que je pense que les gens expiaient leur angoisse avec le rire, peut-être. Fait qu'il y avait comme une dualité, tu sais, l'horreur et la comédie ont toujours été comme très proches. Fait qu'on avait travaillé ça, puis c'était vraiment c'était super cool ce que ça donnait avec le public. Là. Le public aujourd'hui consomme beaucoup, beaucoup de fiction, tu sais, puis je pense qu'on est vraiment beaucoup influencé par le cinéma, puis évidemment le cinéma américain, tu sais, puis qui maintenant demande quasiment exclusivement ça, tu sais, fait que je pense que le public aujourd'hui est très, très intelligent, puis le public comprend tellement rapidement les codes, puis comment l'histoire se développe, fait que je pense que t'as comme pas le choix, d'une certaine manière, d'être en avant du public, tu sais, comme dramaturge, pas toujours, mais du moins dans le théâtre que je fais, on dirait que, tu sais, le cinéma m'a beaucoup influencé, puis j'ai l'impression que le public se reconnaît dans ce type de théâtre-là parce que c'est la fiction qui consomme, tu sais, principalement. Puis c'est drôle parce que, tu sais, il y a quand même, je regarde ce qui est populaire sur Netflix, puis je regarde ce qui est sur nos scènes, puis tranquillement pas vite, ça change, mais il y a quand même une... Il y a une bonne différence, je trouve, entre ce qui est au théâtre puis ce qui est... sur Netflix, par exemple, là, parce que je prends Netflix parce que je trouve que ça inclut un peu tout le monde, alors que, tu sais, malheureusement, la télé, tu sais, par exemple, en tout cas, tu sais, des trucs comme District 31, tout ça, je sais que ça c'est venu chercher même notre génération, mais tu sais, même la télé, moi, mes parents écoutent beaucoup la télé, mais j'ai l'impression que c'est cette génération-là qui écoute beaucoup la télé, alors que nous, on est plus dans le streaming. Mais puis il y a une différence entre ce qui est joué à la télé, à TVA, à Radio-Canada, puis ce qui est joué sur Netflix. Puis c'est paradoxal quand même parce que Netflix, c'est très, très consommé, puis c'est des millions et des millions de vues pour des affaires super dark. Il y a tellement beaucoup de documentaires sur des tueurs en série sur Netflix. Il y a tellement... on a une fascination envers le mal qui n'est pas représentée beaucoup dans notre télé. En tout cas, je trouve... Je pense que les producteurs aussi ont peur de ça un petit peu. Puis je peux comprendre pourquoi. Puis parce que aussi, la télé, pour bien des gens, c'est une manière de décrocher. Puis c'est pas une manière d'angoisser encore plus, là. Puis ça, je le comprends bien, tu sais. Mais il y a de très bons auteurs de télé québécoise qui malheureusement, se retrouvent pas toujours dans les plus grosses plateformes. Mais bref, tout ça pour dire que je pense qu'en effet, tu sais, cette influence-là cinématographique, pour moi, est importante. Puis je pense qu'elle est en symbiose avec, du moins... où le public est rendu, tu sais. Puis je pense que le public aime pas ça se faire prendre pour un cave, là. Tu sais, je pense que les gens consomment beaucoup de fiction, puis c'est le rôle des auteurs aujourd'hui aussi d'être à la hauteur de ça, tu sais. Puis d'être au même niveau que le public, tu sais. Fait que jouer avec ces codes-là, pour moi, c'est super important, vraiment.
Si on regarde au cinéma, les codes se développent parce que les films des années 90 qu'on écoute, par exemple dans l'horreur, on sait déjà la fin après 3 minutes de film, alors que les films qui sortent maintenant, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer.
Puis tu sais, c'est de jouer aussi avec ce que le public pense que le spectacle est et ce qui est réellement spectacle, tu sais. Puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant aussi de jouer avec l'idée que juste de dire que c'est de l'horreur, puis finalement... ça se termine super bien ou ça va dans la romance ou je sais pas, jouer avec ça, pour moi, c'est intéressant, tu sais, dans ce que les attentes du public quand ils s'assoient, après 15 minutes de show, ça change, puis après 30 minutes aussi, fait qu'il y a comme, j'essaie toujours de me demander où est le public en ce moment, puis qu'est-ce que je peux faire pour le surprendre, tu sais, parce que je pense que c'est ça qui est intéressant, là. C'est que quand tu penses qu'il y a quelque chose, puis finalement c'est autre chose, puis que cette autre chose-là, t'aurais pu le deviner, tu sais. Fait qu'il y a comme... Ça, c'est vraiment agréable, c'est vraiment le fun, puis c'est dur à faire, mais quand tu y arrives, c'est assez jouissif.
Ouais. Mais c'est pour ça aussi que le théâtre, je trouve ça cool, parce que c'est aussi un peu plus proche d'un roman que du cinéma, on va dire, parce que comme Valentine l'a dit, au cinéma ou des trucs comme ça, on peut voir un peu plus qu'est-ce qui va se passer, mais surtout dans le siècle dernier. Mais dans les romans, quelquefois, je trouve ça un peu plus difficile de genre, voir ce qui se passe, vraiment.
Ouais, c'est sûr qu'en littérature, t'es beaucoup plus dans la tête des personnages, là. Fait que t'es beaucoup plus dans la perception du monde que juste le monde tel qu'on le perçoit, nous, de l'extérieur. T'sais, c'est comme si, en fait, celui qui perçoit au théâtre, c'est le public, là. T'sais. Celui qui perçoit le monde. Fait que il y a un lien à ça, mais t'sais, je me suis aventuré pendant la pandémie dans l'écriture du roman, puis c'est vraiment, vraiment difficile. Puis après ça, je suis revenu au théâtre, puis j'étais comme, oh mon Dieu, juste écrire des dialogues, wow! T'sais, y a comme, t'sais, c'est super, super difficile, puis je vais peut-être y retourner un jour, probablement, mais t'sais, c'est ça, c'est vraiment un autre type d'écriture. Puis je pense que ce que j'aime beaucoup au théâtre aussi, c'est de faire parler du monde, t'sais, puis que la pensée, elle peut être chaotique quand souvent la pensée est chaotique quand elle est exprimée, t'sais. Tu finis pas une phrase, il y a une autre idée qui arrive, tu cherches un mot, t'sais. Pour moi, ça, c'est vraiment le fun dans la langue théâtrale, t'sais. Puis je pense que les gens se reconnaissent là-dedans. Fait que plus la langue au théâtre, pour moi, elle se rapproche d'une oralité qui est travaillée, évidemment, mais plus je pense que c'est le fun pour le public, t'sais. Alors que, tu sais, personnellement, moi, je connecte un petit peu moins avec le théâtre qui est plus poétique, plus littéraire, tu sais. J'aime beaucoup la poésie, puis je dis ça, puis tu sais, des auteurs comme Steve Gagnon, qui a une langue super poétique, mais en même temps qui est très ancrée dans une viscéralité, puis très émotive aussi, tu sais, m'a beaucoup influencé plus jeune, tu sais. Je pense, mais on dirait qu'aujourd'hui, le théâtre que j'aime, puis tu sais, en ce moment, je lis beaucoup de Martin Crimp, par exemple, qui est un auteur de théâtre extraordinaire, vraiment. Puis c'est ça, tout le travail de langue parlée est vraiment, vraiment intéressant dans son théâtre. Fait que, entre autres, là, puis tu sais, il y en a tout plein. Puis en tout cas, personnellement, le théâtre que j'aime, je pense, c'est ça. Puis on arrive tout le temps à lire entre les lignes, tu sais. Fait que. Alors que, tu sais, souvent dans le roman, pas toujours, mais on est dans la tête d'un personnage, donc, tu sais, la psychologie est dévoilée beaucoup plus, disons. Fait que c'est intéressant, tu sais, d'avoir une scène devant toi, puis de pouvoir te dire, ah ouais, est-ce que cette personne-là, est-ce que ce gars-là, c'est un malade mental ou pas? Est-ce que, tu sais, c'est quoi ses intentions? C'est quoi, tu sais, en tout cas? Fait que pour moi, c'est le fun, ça, au théâtre, je pense.
Donc, si je compare, parce que j'ai lu deux de tes pièces, j'ai lu Mes enfants n'ont pas peur du noir puis Dévoré. Si je compare ça, mettons, avec du théâtre classique là, qui date d'il y a longtemps, là, où c'est difficile à lire, ça, juste tes pièces, je les lis, puis je m'imagine dans ma tête très facilement ce qui se passe. Donc la tension monte, donc même juste à la lecture, ça fonctionne. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est même des pièces qui peuvent être bien juste lues, ça fonctionne.
Puis tu sais, c'est une angoisse publier un texte de théâtre quand même parce que, tu sais, souvent on le publie, tu sais, deux semaines avant. En fait, tu dois remettre ta version finale, mettons, trois semaines avant la première. Puis même à ça, tu sais, le texte change encore. Puis, tu sais, comme dans Mes enfants, la version qui a été publiée puis la version qui a été jouée. Je me souviens, tu sais, en tout cas, une des dernières scènes, on avait fait une bonne coupure aussi dans la production. Puis... Fait que le texte évolue un peu toujours parce que c'est une matière en mouvement, parce que on fait le spectacle, on passe à travers, puis on réalise en le faisant ou avec le contact du public que certaines affaires fonctionnent puis d'autres non. Fait que c'est très angoissant de publier un texte de théâtre. Mais on réfléchit de plus en plus à comment l'objet écrit peut aussi être intéressant. Puis je pense que, tu sais, en tout cas avec... mon éditeur à l'instant scène, c'est intéressant les questions qu'on se pose aussi pour que... En fait, pour moi, l'objet écrit puis l'objet qui est joué, c'est deux choses. T'sais. Fait que j'essaie d'avoir des trucs qui sont... parce qu'il y a des trucs qui sont de l'ordre de la mise en scène aussi. T'sais. Edith Patnaud, dans Mes enfants, avait eu tellement plein d'idées que moi, qui sont pas traduites dans la version écrite. T'sais. Puis ce qui est super, en fait. T'sais. Puis je pense que c'est un des gestes vraiment beaux du théâtre, c'est qu'on prend le texte puis il devient autre chose, tu sais, puis il y a plusieurs filtres après ça, le filtre de la mise en scène, le filtre des acteurs, le filtre de la scénographie, l'éclairage, tout ça. Fait que, à un moment donné, ça t'appartient plus, tu sais. Fait que, j'essaie que le texte écrit soit le texte le plus pur possible, c'est-à-dire ce qui part de moi, puis après ça, ben l'objet qui est créé, ça devient autre chose. Puis... Fait que c'est ça, mais je pense que le théâtre lu peut être le fun. T'sais, moi, je lis presque juste du théâtre, en fait. T'sais, puis c'est vraiment... Il y a plein de théâtre écrit qui est super le fun à lire, puis c'est drôle que tu parles, tu sais, t'as parlé de Shakespeare. En ce moment, je suis sur un spectacle qui s'appelle Rome, qui est ces 5 pièces de Shakespeare, en fait, qu'on fait en avril à l'usine C, qui est montée par Brigitte Henkens, puis on est 25 acteurs, en fait. C'est une immense production, puis c'est un show qui va durer environ... Bon, ils disent 5 heures, mais ça va facilement durer 6 heures. Fait que c'est ça, puis... Mais je vois à quel point, c'est même aujourd'hui, les thématiques de Shakespeare nous touchent encore, puis je suis tellement fasciné par ça, puis il y a un côté profondément humain, je pense, dans les structures humaines que Shakespeare a mis le doigt là-dessus, au-delà des structures politiques, je pense, puis dans Rome, il y a quand même il y a un côté historique aussi, je pense, qui nous parle, mais c'est que, par exemple, Antoine et Cléopâtre, tout l'amour d'Antoine, c'est super déchirant pour Cléopâtre, puis il devient comme... Il part de l'idole d'un peuple à une loque, tu sais, pour son amour. Puis, tu sais, ça, je veux dire, ça nous parle tellement encore aujourd'hui. Fait que, tu sais, Shakespeare, pour moi, c'est mon auteur préféré du théâtre classique, tu sais, pour plein de raisons. Puis aussi, je pense qu'il y a tout un mystère autour de son œuvre, mais fait que c'est fascinant en ce moment de travailler ces pièces-là qui ont été écrites il y a 400 ans, puis d'être encore autant tellement transporté par la fiction, puis par les mécanismes de la fiction, puis de l'intérieur, tu sais, ces pièces sont complexes, mais de le vivre de l'intérieur, puis voir à quel point c'est génial, je suis comme, tu sais, il y a des modes où on essaie de où on dit beaucoup pourquoi on monte des classiques puis pourquoi on monte pas nos auteurs en ce moment. Mais honnêtement, Shakespeare, c'est bon, c'est écœurant. Puis comme il y a, c'est pas tout le monde, tu sais, je veux dire, il y a plein de super auteurs contemporains, puis il y a plein de gens qui vont dans des zones super intéressantes. Mais tu sais, ça reste du grand, grand théâtre. Puis c'est pas tout le théâtre qui est fait en ce moment qui est aussi grandiose, tu sais. Fait qu'il y a comme, c'est ça qui est intéressant aussi. Puis. Puis je l'ai dit, moi, pendant des années aussi, j'étais comme « fuck le théâtre classique, fuck tout ça », tu sais. Puis je pense qu'il y a un théâtre classique aussi qui est plus qui vieillit moins bien, là, tu sais, le théâtre en alexandrin, par exemple, là, qui est plus un objet littéraire. Mais il y a encore du super bon théâtre classique qui peut être monté, je pense, d'une manière encore vraiment pertinente, puis pour être... dans un spectacle qui, je pense, va être vraiment... va être une expérience à vivre, une expérience intéressante et pertinente. C'est vraiment intéressant, les constats que je fais en ce moment par rapport à Shakespeare, entre autres. Là. Vraiment.
Mais c'est comme, pour moi, Shakespeare, c'est un théâtre qui est beaucoup plus intéressant d'être vu que lu. Parce que, mettons, on a lu Hamlet dans un de nos cours. Ça m'intéressait moyen, mais j'ai vu la pièce en anglais et en langue des signes au diamant, puis c'était beaucoup plus intéressant une fois monté. Là. Ils avaient fait des coupures, là, mais... Oui.
Ah ouais, au diamant, ils ont fait ça. Oui, oui, c'est ça. Exact, je pense que c'est le regard qu'on porte sur ces œuvres-là aussi qui est intéressant. Puis là, c'est sur Rome, les 5 pièces, c'est drôle, c'est déjà la 3e fois que je parle de lui, mais ils sont adaptés par Jean-Marc Dalpé. Fait que, tu sais, je pense aussi qu'il y a un travail de langue aussi qui est plus proche de nous. Puis, tu sais, même Shakespeare, il y avait différents niveaux de langue dans ses pièces. Puis souvent, les traductions, par exemple, de Victor Hugo, ils rendent pas justice à ça, tu sais. La langue des paysans, par exemple, puis la langue des gens plus bourgeois, disons. Il y avait une différence dans sa langue. Fait que, alors, puis Jean-Marc a vraiment travaillé ça. Fait que ça, c'est super intéressant, là. Vraiment, c'est qu'il y a des sacres puis tout ça, puis en tout cas, pour moi, c'est comme, puis qui est fidèle aussi à l'esprit de Shakespeare puis aux idées de Shakespeare. Fait que non, c'est vraiment un travail colossal que Jean-Marc a fait, puis je pense que ça va être un spectacle important.
Sinon, moi, j'avais une question. Là, on sort un peu de Shakespeare, c'est pour mettons la vie du public. Est-ce que ça ramène un public plus jeune? des pièces dans le style que t'as écrit?
Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que c'est plus accessible, tu sais. Juste parce que ça ressemble plus à la manière dont on raconte les histoires au cinéma, puis... Fait que oui. La réponse courte, c'est ça, puis... Tu sais... Pour moi, c'est important, là, puis... Tu sais, le public doit se renouveler, puis pour moi, c'est comme ça que le public se renouvelle, puis faut être à l'écoute de ça, puis de... Tu sais, nos manières de raconter des histoires évoluent, puis c'est pour ça qu'il y a un certain théâtre qui est plus poussiéreux, disons, puis qui est moins accessible, je pense, pour une certaine génération, puis qui fait que souvent, tu sais, on pardonne pas. Ça fait, tu vois une mauvaise pièce, puis tu te dis que tout le théâtre est de même, alors qu'au cinéma, tu vois un mauvais film, tu te dis pas que tous les films sont comme ça. Fait que, tu sais, je pense que ça pardonne moins. Fait que s'il y a un jeune qui a une mauvaise expérience au théâtre, puis tu sais, ça aussi, ça part beaucoup des profs. Hein, tu sais, le choix des pièces par les profs à l'école est super important, vraiment. Tu sais, puis... Il y a des profs qui sont super inspirants, puis qui, tu sais, à premier acte, je sais pas si vous êtes déjà allé à premier acte, le petit théâtre en face du Périscope, sur Salaberry, tu sais, il y a beaucoup, on avait beaucoup de groupes scolaires, tu sais, je me souviens, dans l'épicerie, on avait fait, je pense, 7 matinées scolaires, tu sais, puis j'étais tellement, je trouvais ça tellement cool que les profs prennent le risque, tu sais, d'amener leurs étudiants leurs élèves dans ce type d'expérience-là théâtrale. Puis, tu sais, c'était débile ce que ça donnait avec les jeunes. C'était incroyable, tu sais. Puis, fait que aussi, un des mandats de ma compagnie, c'est aussi de faire un dossier pédagogique solide pour qu'il y ait le plus de jeunes possible qui voient les shows, tu sais. Parce que je pense que aussi, quand tu as une expérience positive envers le théâtre, tu peux faire... Toute ta vision du théâtre change, tu sais. Puis on a tellement beaucoup de préjugés face à ça. Puis ces préjugés-là viennent aussi du cinéma, je pense. Comment on a décrit le théâtre au cinéma, là, tu sais, comme le monde en collant. Puis tu sais, c'est tellement ridicule que... Fait que, tu sais, je pense que ça fait aussi partie de mes préoccupations, tu sais. Puis... Après ça, tu sais, les directeurs artistiques ont leurs propres préoccupations par rapport à leur théâtre, puis à remplir les salles, puis ça, je le comprends bien, tu sais. Puis aussi à garder un certain public aussi, puis le public d'abonnés particulièrement à Québec est important, là, surtout au Trident. Fait que, tu sais, il y a un public qui est là, qui voit des shows depuis 30 ans, tu sais, qui s'attend aussi à un certain théâtre. Fait qu'il y a une dualité aussi entre ça, amener du nouveau monde, puis garder le monde qui sont là, qui vont au théâtre depuis longtemps. Fait que, tu sais, c'est difficile, je pense, de plaire à tout le monde, mais surtout dans le type de production que fait ma compagnie, pour moi, c'est plus... C'est dans ces zones-là que je vais, puis je pense que tu sais, juste par les retours, puis par le contact avec ma génération, je pense que c'est un théâtre qui est vivant, là, tu sais. Puis qui fait en sorte que tu as envie d'y retourner. Fait que ça, c'est vraiment cool.
C'est ça, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai eu de la chance d'avoir apprécié à peu près toutes les pièces de théâtre que j'ai vues, sauf, mettons, dans toutes les pièces que j'ai écoutées depuis que je suis petite, il y en a genre 2 que j'ai pas aimées. Donc j'ai vraiment eu de la chance à ce niveau-là. Là.
Ouais, mais ça... Tu sais, je pense que c'est aussi... moi, j'ai vu des pièces au cégep où c'était juste les acteurs que je trouvais super, tu sais. Je me souviens, tu sais, je voyais Steve Gagnon. Tu sais, moi, c'est vraiment... J'étais au cégep, puis Steve, ça faisait pas longtemps qu'il était sorti du conservatoire, puis il jouait au Trident, puis moi, j'étais comme « Hey, moi, je veux tellement être ce gars-là, tu sais. » Fait que, tu sais, il y a de ça aussi, puis je pense que dans la... En ce moment, dans tout le mouvement de diversité, il y a aussi cette importance-là d'identification, je pense, d'aller chercher le talent un peu partout, tu sais, dans toutes les sphères de notre société. Puis l'effort de guerre qui est fait en ce moment, c'est justement pour ça, là, pour faire émerger le talent. Puis c'est pas juste de voir un bon show, je pense que c'est aussi comme de se projeter sur scène, puis de vouloir faire partie de la culture, là, tu sais. Fait que ça, c'est super important. Fait que le théâtre peut t'influencer de plein de manières.
OK. Donc, ça va être la dernière question. Si tu avais quelque chose à dire au podcast, quelque chose qu'on n'a pas parlé, que tu voudrais aborder, genre que tu voudrais parler là, qu'est-ce que ça serait, mettons?
C'est drôle parce que, tu sais, j'ai envie en ce moment de parler d'habitudes de vie, là, puis c'est vraiment, vraiment différent de ce qu'on a abordé, mais tu sais, quand t'es passionné d'envie par quelque chose, il te faut des cadres puis des systèmes, je pense, tu sais, puis dans ma jeune vingtaine, j'étais beaucoup axé sur les résultats, puis on dirait que maintenant, j'apprécie de plus en plus le processus, puis j'apprécie l'idée d'écrire tous les jours, tu sais, puis d'avoir ces systèmes-là, puis c'est drôle, tu sais, j'ai mes petits sabliers, là, tu sais, puis je fais des heures d'écriture avec mes sabliers, puis c'est super niaiseux, mais tu sais, ça, j'ai comme des cadres, en fait, qui fait que j'écris tous les jours, puis, tu sais, surtout dans une société comme la nôtre aujourd'hui, où il y a de plus en plus de monde qui font de l'art, puis qui veulent être artistes, puis c'est comme tu te mesures toujours aux autres, puis, fait que t'as toujours l'impression qu'il y a quelqu'un quelque part qui est meilleur que toi, puis fait que c'est comme, en fait, mon... Tu sais, la méditation a eu vraiment un impact dans ma vie aussi, je pense, là. Mais aussi, c'est ça, d'apprécier au quotidien le processus, puis si t'es passionné par ce que tu fais, si t'aimes écrire, si t'aimes faire du théâtre, quand tu le fais, faut que tu sois heureux, tu sais. Puis souvent, tu sais, puis pour l'avoir fait beaucoup, tu sais, des 30 shows que j'ai fait de théâtre à Québec, tu sais, il y en a facilement une dizaine là-dedans où j'étais très anxieux, j'étais pas bien sur scène parce que j'étais vraiment plus dans le résultat, puis j'étais comme, ah, faut que les critiques soient bonnes, faut qu'on dise que je suis bon pour pouvoir continuer de travailler, puis j'en profitais pas, tu sais, j'étais là. Tu sais, j'étais dans ce que je voulais faire. J'étais sur scène. Puis j'étais sur scène au Trident. J'étais sur scène dans les plus grosses scènes à Québec. Puis j'étais pas heureux, tu sais. Puis je pense que c'est la trentaine qui fait ça aussi. Mais tu t'assagis, mais tu sais, avec la discipline puis la fierté que ça apporte de réussir à écrire tous les jours, de réussir à méditer, à m'entraîner, à faire plein de trucs qui me rendent fier, tu sais, au quotidien, puis de les apprécier, ça fait que, tu sais, tu laisses aller un petit peu plus les résultats, puis t'es vraiment plus dans l'expérience du truc, puis, tu sais, le théâtre, c'est tellement éphémère, tu sais, tu répètes pendant 4 semaines, tu le joues pendant 3-4 semaines, puis c'est fini à jamais, tu sais. Fait que si t'en profites pas, ça passe vite, puis t'es déjà comme dans le deuil, fait que en tout cas, tu sais, je sais pas si ça peut être inspirant d'une certaine manière, mais en tout cas, ça l'a été pour moi de revirer la situation de bord puis faire comme j'ai envie d'en profiter puis j'ai envie au quotidien d'être heureux puis de m'asseoir devant mon ordi puis d'être bien avec ça puis peu importe le résultat puis peu importe comment ça se passe puis tu sais, c'est un long chemin à écrire là, ça prend c'est des années de travail, tu fais une pièce puis tu le sais que c'est monté dans 2-3 ans, fait que t'es tout le temps un peu, la pièce joue, puis t'es ailleurs, puis fait qu'il y a comme, c'est ça, faut, si t'es passionné, puis en fait, la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais, ça doit être parce que t'aimes ça. Ça doit être parce que t'aimes ça écrire, t'aimes ça le faire, t'aimes ça au quotidien, ça t'apporte du bonheur, puis c'est tout ce qui compte, mettons. C'est tout ce qui compte. Parce que c'est un couteau à double tranchant, ce métier-là. Ça peut être très, très, très difficile. Puis pour avoir vécu beaucoup, beaucoup d'angoisse, puis d'anxiété, puis des problèmes de santé mentale dans ma vingtaine à cause du théâtre, en fait. Puis de la répétition au théâtre, c'est super exigeant parce que tu fais un spectacle, ça se passe super bien, puis le lendemain, c'est à recommencer devant un tout autre public qui t'a pas vu, qui t'a pas vu jouer. Fait que c'est difficile, ça. Fait que c'est ça, si t'arrives pas à être fier de toi, puis à te récompenser, puis à être heureux dans le processus, ben tu seras jamais heureux, tu sais. Fait que c'est une question à se poser pour ceux qui écoutent le podcast. J'imagine il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça ou qui font déjà ça ou tu sais, du moins qui cherche le chemin, ben je pense que le chemin il est là, tu sais, il est concret là, c'est dans l'expérience du truc. Puis si ta relation est pas amicale avec ça, si ta relation est anxiogène, si ça t'apporte plus d'angoisse, si tu cherches de la reconnaissance, parce que ça part souvent de là, là, tu sais, si tu cherches la reconnaissance des autres, puis le succès, puis tout ça, ben t'es pas à la bonne place, tu sais. Parce que ça, c'est un résultat, puis les à chaque fois que tu atteins un résultat, tu veux autre chose, t'es jamais satisfait, tu sais. Fait qu'en tout cas, tu sais, je le dis par expérience, puis je le dis aussi juste pour pouvoir partager c'est ce bonheur-là que j'ai au quotidien de faire du théâtre, puis de partager cette magnifique expression de notre humanité. C'est ça, t'sais, on est ensemble, puis on fait quelque chose ensemble, puis c'est juste ça qui compte. Là, t'sais, on fait un mauvais coup. Là, t'sais. t'sais, ou un... C'est pas juste des mauvais coups, mais il y a cet esprit-là là, de l'enfance, là, du jeu. T'sais, on dit qu'on va jouer, ben c'est ça. Là, t'sais. Puis les enfants, quand ils jouent, sont vraiment dans le moment présent, puis ils vivent l'affaire, puis on s'en fout du résultat. Fait que c'est ça. Voilà.